C'est le 10 janvier 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. Bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Salutations à vous, Jean-Sébastien Laliberté.
Et je vous retourne les salutations, Hélène Denis.
Nouvelle coupe de cheveux?
Pour moi ou pour vous?
Non. Fait couper les cheveux très, très, très courts, puis on dirait que je viens de remarquer que, je sais pas, la tête n'est pas nouvelle, mais j'avais l'impression que vous aviez une coupe fraîche tellement quand je vous ai vu.
Ben, je peux confirmer que c'est assez court, donc il fait très frais dehors lorsque je me couvre très mal, même que dans les premiers jours suivant mon récent remodelage capillaire, je devais porter deux tuques afin de ne pas me geler le cerveau.
Remodelage capillaire. Alors, on parle beaucoup de cheveux tantôt aussi avec d'autres collègues. On parlait de tête, mais là, on parle d'éphémérides.
Absolument. On commence quand même assez loin dans l'histoire. Un 10 janvier, 49 ans. Avant notre ère, donc il y a déjà plus de 2000 ans, Jules César traverse le Rubicon avec une légion, marquant le début d'une guerre civile. Il arrivera à Rome alors que le Sénat se sauve. C'est le début de la fin de la République romaine, qui mènera vers les débuts de l'Empire romain. Et c'est lors de cette traversée illégale de la rivière le Rubicon qu'il aurait prononcé la fameuse phrase « Alea jacta es », le sort en est jeté. On fait un saut de plus de 1800 années plus tard, 10 janvier 1863 à Londres, inauguration du premier métro au monde, reliant les stations Paddington et Farrington. 1910, il y a donc 108 ans, à Montréal paraît le premier numéro du quotidien Le Devoir, fondé par Henri Bourassa.
Bon anniversaire, Le Devoir, qui existe toujours, version papier en plus.
En plus, ça se fait rare dans les journaux.
Ah oui.
10 janvier 1912, à Amonsport, État de New York, vol du premier hydravion conçu par l'ingénieur Glenn Curtis. 1920, entrée en vigueur du traité de Versailles, mettant fin à la Grande Guerre et créant la Société des Nations. Elle qui s'avouera apparemment inefficace et sera remplacée plus tard par les Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. 10 janvier 1927, sortie en Allemagne du film Metropolis de Fritz Lang. 1928, Léon Trotsky, de son vrai nom Lev Davidovich Bronstein, mais qui est mieux connu comme étant Léon Trotsky, artisan de la prise au pouvoir bolchevique en 1917 et chassé du pays par Staline.
Vous m'impressionnez ce matin.
Le 10 janvier 1929, première parution des aventures de Tintin, reporter au pays des Soviets de Georges Rémy, mais bien sûr Hergé, dans le petit 20e de Bruxelles. 1942, le barreau du Québec admet les premières avocates, Elisabeth Monk et Suzanne Fillion. 1942, c'est donc, si ma mémoire ne me fait pas de défaut, 2 ans après le droit de vote des femmes au Québec.
Non, votre mémoire ne vous fait pas défaut.
10 janvier 1946, premier contact radar avec un astre, la Lune. 1949, RCA lance le 45 tours. J'ai fait une recherche ce matin à voir quel était l'artiste et quelle était la pièce qui fut inaugurée la première
Beatles?
Fois. Même pas. C'est un artiste dont le... Et j'ai fermé la page, je ne peux pas vous le renommer. Mais ce n'est absolument pas une pièce qui a eu un grand succès. Du moins, qui ne s'est pas rendue aujourd'hui dans les annales. Je ne connais ni l'artiste ni la pièce. Mais désolé de vous laisser ainsi languir pouvoir mettre un titre sur la
que vous nous donniez la réponse.
Je reviendrai sous peu avec l'information. 10 janvier 1975, première d'apostrophe de Bernard Pivot. 1993, chassé depuis 3 semaines par les vapeurs toxiques de wagons ayant déraillé. 400 résidents d'Oakville, au Manitoba, peuvent rentrer chez eux. 10 janvier 1994, à Montréal, au stade olympique, un muret de 3 mètres par 10 s'effondre, mais heureusement, il n'y a pas de blessés. 2003, la Corée du Nord se retire du traité de non-prolifération nucléaire auquel elle avait adhéré en 1985, une décision condamnée par la communauté internationale. 2 ans plus tard, jour pour jour, elle déclare avoir l'arme nucléaire. Coïncidence, possiblement. 10 janvier 2008, l'Office des transports du Canada ordonne à Air Canada et WestJet de ne plus surfacturer les voyageurs handicapés et obèses. 2008, libération de Clara Roja, collaboratrice d'Ingrid Betancourt et ex-parlementaire et de l'ex-parlementaire Consuelo González, otage depuis plus de 6 ans des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Bonne fête aujourd'hui, 10 janvier, à Rod Stewart. Lui qui est né en 1945. Et finalement, 10 janvier, c'est l'anniversaire de décès 1971, Coco Chanel, qui est la couturière, bien sûr, Coco Chanel, qui est décédée le 10 janvier 1971. 2009, l'ancien maire de Québec, Jean Pelletier. Et 2016, 10 janvier, David Bowie.
Ah oui, on ne l'a pas oublié celui-là.
Absolument pas, et on aura le plaisir de l'entendre aujourd'hui.
Très bien, merci. Et à la une de la presse d'aujourd'hui, jugez les endoctrineurs, pas les enfants de 18 et 19 ans. Sans nouvelles de sa fille partie pour la Syrie et de l'enfant qu'elle y a mis au monde, une mère montréalaise lance un appel à l'aide aux autorités canadiennes et raconte sa détresse. Une exclusivité de la presse, Trudeau, pas prêt d'emménager au 24 Sussex. Les rénovations sont toujours en suspens. Nid de poule et fissures en vue, la vague de froid et le soudain redoux font craindre pour l'état des routes. Et la chronique d'Hugo Dumas, que je vous lirai un petit peu plus tard lors des actualités culturelles, Véro gagne le gros lot. Trudeau n'est pas prêt d'emménager au 24 Sussex. Justin Trudeau a pu séjourner plusieurs années durant son enfance au 24 Sussex, la résidence officielle du premier ministre, alors que son père dirigeait le gouvernement canadien. Mais tout indique qu'il ne pourra pas y déménager ses pénates, même s'il est aujourd'hui premier ministre, du moins durant son premier mandat. Les projets de rénovation de cette résidence étaient encore en suspens plus de 2 ans après son arrivée au pouvoir. Après sa victoire électorale en octobre 2015, M. Trudeau a choisi d'installer sa famille à Rideau Cottage, une maison située sur le terrain de Rideau Hall, où se trouve la résidence du gouverneur, dis-je bien, général à Ottawa, afin de permettre à la Commission de la capitale nationale, CCN, de mener à bien les travaux de rénovation qui s'imposent au 24 Sussex. Depuis lors, la famille Trudeau partage son temps entre Rideau Cottage et la résidence du lac Mousseau, dans le parc de la Gatineau, laquelle sert de résidence secondaire au premier ministre. Il arrive à l'occasion que certains membres de la famille se rendent au 24 Sussex afin d'utiliser la piscine de la résidence qui a d'ailleurs été installée à la demande de l'ancien premier ministre Pierre-Éliott Trudeau. 9 500 $, ce sont les coûts mensuels en électricité durant l'hiver au 24 Sussex. Il en coûte environ 5 000 par mois durant l'été. Alors, je poursuis. Comment explique-t-on cette lenteur à prendre une décision? Selon nos informations, la CCN, qui est responsable des résidences officielles situées dans la région de la capitale nationale, n'est pas l'unique responsable du dossier. Le ministère du Patrimoine, le ministère des Finances, le bureau du Conseil privé ainsi que la Gendarmerie royale du Canada ont aussi leur mot à dire, surtout dans la foulée de l'attentat terroriste survenu au Parlement en octobre 2014. Résultat, les velléités des uns ne correspondent pas forcément aux ambitions des autres. Même si la résidence officielle du premier ministre est inoccupée, au moins 2 agents de la GRC surveillent les lieux 24 heures sur 24. Bien que le premier ministre et sa famille ne résident actuellement pas au 24 Sussex, les bâtiments continuent d'être essentiels au travail quotidien du personnel, de la maison et du service de sécurité de la GRC, les bâtiments sont utilisés 365 jours par année. Le drame ferroviaire de Lac-Mégantic qui a coûté la vie à 47 personnes en 2013 était un accident qui a été provoqué par une tempête parfaite d'événements imprévisibles, a plaidé hier l'avocat du chef de train Thomas Harding dans le cadre du procès sur la tragédie. Dans ses plaidoiries finales, l'avocat de la défense Charles Chilson a plaidé devant les 14 jurés qu'il ne pouvait pas tenir responsable criminellement son client. Maître Cheerson a déclaré que dans notre société, on ne condamnait pas des gens relativement à leur comportement raisonnable. La société ne condamne que les criminels, a-t-il ajouté. Le juge de la Cour suprême supérieure, dis-je bien, Gaétan Dumas, donnera ses directives aux jurés aujourd'hui. Après quoi, ils délibéreront pour déterminer si M. Harding et deux autres employés de train sont coupables de négligence criminelle ayant causé la mort de 47 personnes. L'hôtel de glace de Saint-Gabriel-de-Valcartier, au nord de Québec, a été le théâtre d'un incendie dans la nuit de lundi à hier. Bien que la cause de l'incendie n'ait pas encore été déterminée officiellement, l'hypothèse la plus plausible est qu'une chandelle serait entrée en contact avec de la literie dans une des chambres de l'édifice éphémère. L'hôtel, dont 13 des 14 chambres étaient occupées, a été évacué et personne n'a été blessé, bien que quelques personnes aient dû être traitées après avoir été incommodées par la fumée. L'hôtel de glace sera fermé pour au moins 2 jours, le temps de nettoyer l'espace. La structure n'a pas été endommagée et n'a pas fondu, mais comme elle n'a pas de fenêtre, la fumée a laissé des traces et une forte odeur. Quelques jours après avoir été répudié par Donald Trump, Steve Bannon a quitté hier la présidence du site ultra-conservateur Breitbart, nouvelle rétrogradation pour celui qui fut l'un des artisans de la victoire électorale de l'homme d'affaires. Arrivé en 2012 à la tête du site après la mort du fondateur Andrew Breitbart, Steve Bannon a largement contribué à en faire la plateforme d'information et d'opinion la plus suivie au sein de la droite dure américaine. Steve reste une part importante de notre histoire et nous lui serons toujours reconnaissants pour sa contribution et ce qu'il nous a aidé à accomplir, a déclaré le PDG du site Larry Solov dans un communiqué publié sur le site. C'est un coup dur pour cet idéologue de 64 ans qui, après avoir quitté la Maison-Blanche à la mi-août, entendait œuvrer de l'extérieur à la consolation d'un mouvement autour de Donald Trump, notamment grâce à Breitbart, qui lui offrait un puissant porte-voix. Mais la situation de l'un des artisans de la victoire de l'homme d'affaires était devenue intenable après la publication, la semaine dernière, du livre de Michael Wolff, Fire and Fury, qui relate la campagne de Donald Trump et sa première année au pouvoir. Selon le New York Times, c'est l'héritière Rebecca Mercer, soutien de longue date de Steve Bannon, qui a poussé Breitbart, dont elle est actionnaire minoritaire, à se séparer de son président exécutif. Les chutes de neige exceptionnelles qui se sont abattues ces derniers jours sur les Alpes ont provoqué de nombreuses perturbations. En Suisse, environ 13 000 touristes sont isolés depuis lundi soir dans la station alpine de Zermatt, dans le canton du Valais. Les régions suisses du Haut-Valais ont enregistré jusqu'à 1,80 m de neige au cours des 3 derniers jours et l'alerte avalanche a été portée à son degré maximum, selon Météo Suisse. My Texarkana baby, do I love her, Lordy love. Her pappy came from Texas and her ma from Arkansas. I'm twisted round her finger like a little piece of string, and yet I'm satisfied because she's such a precious thing. If she hauled off and slapped me, I would never feel the sting. She's my Texarkana baby. She's my Texarkana baby, do I love her, Lordy love. Her pappy came from Texas and her ma from Arkansas. She's pretty as a picture and you ought to hear her name. It's sweet as sorghum syrup and good old blue ribbon cane. She gives me lots of sugar and she never spills a grain.
She's my Texarkana baby. She's my Texarkana baby. Do I love her, Lordy Lord? Her pappy came from Texas and her ma from Arkansas. One night I went a-calling on my pretty little maid. I must admit to you I was a little bit afraid to offer her a diamond ring with one installment pay. She's my Texarkana baby. Texarkana baby, do I love her, Lordy Lord? Her pappy came from Texas and her ma from Arkansas. She's got two eyes that twinkle like a good old country star. She's got a perfect figure that'll stop you where you are. Why, every time I look at her, I think of my guitar. She's my Texarkana baby.
Et on vient d'entendre un son qu'on n'entend pas très souvent sur nos ondes, mais ça fait du bien d'entendre ça. Eddie Arnold avec la pièce Texarkana Baby, cette pièce ayant la particularité d'être la première pièce immortalisée sur un 45 tours. On recule donc en 1949, et je dois faire un mea culpa, moi ayant déclaré que la première pièce sur un 45 tours n'ayant pas fait les annales et le chanteur étant un illustre inconnu. Il faut savoir que M. Eddie Arnold a vendu plus de 85 millions d'albums en carrière.
C'est beaucoup, ça! On vous pardonne tout, Jean-Sébastien, à la liberté ou presque, mais vraiment merci pour cette découverte. Moi, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Je suis certaine que les auditeurs aussi ont apprécié. Alors, à la une du Devoir de ce mercredi 10 janvier, une photo sous laquelle on peut lire « Si la Corée du Nord et la Corée du Sud reprennent contact sur le plan politique, mais sur le plan sportif, c'était déjà fait. » Je reprends « Si la Corée du Nord et la Corée du Sud reprennent contact sur le plan politique, mais sur le plan sportif, c'était déjà fait. » Alors, c'était vraiment bien la phrase. Les deux Corées se sont affrontées en avril dernier à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, dans le cadre d'un match de qualification pour la Coupe d'Asie féminine de football 2018. Diplomatie sportive, un rapprochement coréen qui ne règle pas tout. Iniquité salariale chez les recteurs. Les directeurs les moins payés sont ceux du réseau de l'Université du Québec. Lise Bissonnette réclame le ménage promis par la ministre David. La Sibérie dans la peau. Un spécialiste de l'anatomie se fait tatouer comme une momie de 2000 ans. Média, un potentiel acheteur sérieux du journal Métro, se retire. L'année de tous les dangers pour Trudeau, une chronique de Conrad Yakabuski. Autour du papier d'être frappé par des mesures punitives aux États-Unis et l'idée d'une journée nationale contre l'islamophobie crée malaise. Le rapprochement hautement symbolique intervenu mardi entre les deux Corées a fait descendre la pression à la veille des Jeux olympiques de Pyeongchang, mais il ne règle pas pour autant l'épineux dossier nucléaire nord-coréen. Au terme d'une réunion de plus de 10 heures, les responsables sud-coréens et nord-coréens ont accepté de se serrer la main, une scène qui n'avait pas été vue depuis décembre 2015. Ensemble, ils ont convenu que la Corée du Nord participera aux Jeux olympiques qui se tiendront en Corée du Sud, du 9 au 25 février prochain, tout en promettant de faire le nécessaire pour apaiser les tensions ambiantes. Selon les informations communiquées à la suite de la rencontre de mardi, la délégation nord-coréenne qui se rendra à Pyeongchang comprendra des athlètes, mais également des meneuses de claques, un groupe d'artistes, une équipe de démonstration de taekwondo et un service de presse. Reste à savoir si les deux Coréens feront une entrée commune lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, comme ce fut le cas à Sydney en 2000, à Athènes en 2004 et à Turin en 2006. On parle à tout le moins d'une porte qui s'ouvre pour un processus diplomatique plus avancé, observe Jean-François Bélanger, un chercheur de l'Université McGill affilié au Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale. Le face-à-face impliquant les deux Corées est survenu à la suite des nombreux essais nucléaires nord-coréens qui ont fait craindre le pire pour la sécurité régionale et internationale, en plus de provoquer une guerre de mots entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Le ménage promis dans la rémunération des recteurs se fait attendre. Résultat, le grand patron de l'Université Concordia gagne encore 2,5 fois le salaire de son homologue de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, qui compte pourtant 5 000 étudiants de plus. Faute de volonté politique, les 10 établissements du réseau de l'Université du Québec se démènent dans des conditions lamentables, imposées par le gouvernement, affirme Lise Bissonnette, présidente du Conseil de l'UQAM. Les directeurs les moins payés au Québec sont ceux du réseau de l'Université du Québec, réseau qui fête cette année ses 50 ans. Madame Bissonnette déplore le peu d'empressement de la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, à remplir sa promesse de rétablir l'équité dans la rémunération des recteurs. Ce manque de volonté trahit le mépris de la classe politique envers le réseau de l'Université du Québec, selon elle. Dans l'entourage d'Hélène David, on affirme que la ministre se sent totalement libre d'arbitrer ce dossier. Madame David a refusé nos demandes d'entrevue. Des sources estiment que la ministre mise notamment sur l'autodiscipline des universités qui ont réduit les avantages financiers des recteurs. La Sibérie dans la peau, rien ne surprend plus avec le tatouage, cet art graphique assimilé il n'y a pas si longtemps encore à l'expression d'une rébellion ou à tout le moins d'une marginalité fait aujourd'hui l'objet d'une normalisation en société, au point de servir de point d'ancrage à des séries de télévision. On estime que près d'une personne sur six est aujourd'hui tatouée en Amérique du Nord. Dave Mazierski, un spécialiste de l'anatomie du chameau, professeur associé au département de biologie de l'Université de Toronto, a reproduit sur son corps les tatouages préservés sur les lambeaux de peau d'une momie sibérienne congelée pendant plus de 2000 ans. Ces fragments de peau, derniers vestiges d'une expérience humaine dont nous savons fort peu, se trouvent en ce moment au cœur d'une grande exposition consacrée par le British Museum à l'histoire des sites. L'Université Concordia a réagi mardi à des allégations d'agression sexuelle et d'abus de pouvoir qui visent des professeurs du département d'études anglaises. Dans une déclaration mise en ligne lundi, le recteur Alan Shepard se dit troublé par le texte publié par Mike Spry, ancien étudiant en littérature et instructeur pour la même université. « Ces allégations sont graves et seront traitées avec le plus grand sérieux », écrit M. Shepard. Le billet de blog de M. Spry fait état de divers comportements précis, assimilables à des agressions sexuelles et à du harcèlement sexuel. Il dit avoir été témoin d'un nombre incalculable de cas de gestes d'affection non désirés, d'attouchements, de remarques et de propositions inappropriées. Ce texte rapporte aussi des allégations générales au sujet de l'existence d'un climat de violence psychologique au sein du réputé programme de création littéraire, reconnaît le recteur Shepard. « L'ex-entraîneur de ski alpin Bertrand Charest fait appel de la peine de 12 ans de prison qui lui a été imposée au terme de son procès pour agression sexuelle. Reconnu coupable en juin d'avoir agressé sexuellement plusieurs adolescentes, il avait déjà annoncé qu'il en appelait de son verdict en juillet. Il avait demandé à être libéré en attendant son appel, mais la cour d'appel avait rejeté cette requête avant Noël. L'ancien entraîneur de l'équipe canadienne junior de ski alpin féminine est incarcéré depuis son arrestation le 11 mars 2015. Une dizaine d'écoles de la CSDM ont été endommagées par les grands froids des dernières semaines. Toutefois, les enfants ont tout de même pu commencer leur classe comme prévu au retour du congé des fêtes mardi, précise la CSDM. Des élèves ont été déplacés dans d'autres locaux, mais au sein de la même école, répond le porte-parole Alain Perron. À l'école Saint-Luc, un bris de la conduite d'eau d'aqueduc a endommagé une quinzaine de locaux. Des bris de tuyaux ont également fait des dommages dans les écoles Boucher de la Bruyère et Sainte-Cécile, de même qu'au centre administratif de la CSDM. L'école Sainte-Bernadette-Soubirou, annexe, est toujours privée d'eau et un réservoir citerne a été livré mardi matin. D'autres écoles ont été affectées par un bris de l'alimentation électrique ou de radiateur. Des travaux de sécurisation, de nettoyage et de remise en état sont toujours en cours. L'avionneur américain Boeing a livré un nombre record d'avions commerciaux en 2017 et a enregistré un bond de 36,5% de ses commandes nettes, confirmant une année ayant vu sa capitalisation boursière s'envoler de 90%. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens à l'antenne de Canal M de Vues et Voix et c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous, à venir une chanson et puis aussi la revue de presse du Journal de Montréal.
je dois traverser l'océan demain matin. De tes bras, je m'arracherai tout doucement. Et c'est la réalité qui m'attend. Je sais ton cœur est habité par une odeur.
Place de la République, c'était Cœur de Pirate sur les ondes de Canal M.
À la une du Journal de Montréal, l'homme d'affaires et ex-dragon François Lambert estime que la police se traîne les pieds après ce vol par effraction dont il a été victime, en furie contre la police. Une grande photo où on voit donc François Lambert. Les bons et mauvais coups de Bergevin. Droit compensatoire, les Américains s'attaquent maintenant au papier journal. Un vol qui n'intéresse pas la police. Après s'être fait voler par un petit crotté, entre guillemets, trois montres valant plus de 65 000 $, mais encore davantage au niveau sentimental, l'homme d'affaires François Lambert estime que la police de Montréal se traîne les pieds dans son dossier parce qu'il est riche, entre guillemets encore. Ça manque de sérieux, cette enquête. Ils ont l'air de se dire que parce que j'ai beaucoup d'argent, ce n'est pas grave, que les assurances vont payer, lance l'ancien dragon rencontré par le journal dans sa maison de l'arrondissement d'Outremont à Montréal. Mais ce qui le frustre le plus, c'est qu'il est convaincu de connaître l'identité du cambrioleur qui est allé chez lui le 23 décembre. Trois jours après le vol, il a publié sur sa page Facebook une vidéo où on peut voir le brigand affublé d'une cagoule dans sa cuisine en pleine rénovation, parlant possiblement au téléphone à ses présumés complices. Il a eu l'énorme surprise d'être contacté par des proches du présumé voleur, convaincus hors de tout doute de l'avoir reconnu sur les images. Ils disent qu'après trois secondes, ils avaient reconnu sa voix, sa démarche. C'est grâce à la force des réseaux sociaux. Sans ça, on n'aurait aucune idée de qui aurait commis ça. Ils ont aussi reconnu les noms des complices qui seraient de ses amis, raconte François Lambert, encore étonné par la tournure des événements. Du côté de la police de Montréal, on confirme que l'enquête est toujours en cours, sans pouvoir donner de détails pour ne pas nuire à celle-ci. Une promotion plus qu'une compensation. L'Oblat tirera profit des 25 $ offerts, disent des experts. Le programme de cartes cadeaux proposé par l'Oblat pour dédommager les victimes du cartel du pain a davantage l'allure d'une promotion que d'une compensation selon des experts et des consommateurs. Ce qu'a réussi à faire l'Oblat, c'est de tourner quelque chose de déplorable en un coup de marketing, ce qui est, je dois dire, assez astucieux, souligne le professeur émérite à HEC Montréal, Jacques Nantel. À la fin de l'an dernier, le géant de l'alimentation L'Oblat et la compagnie de pain Weston ont admis avoir pris part à un stratagème pour faire gonfler les prix du pain entre 2002 et 2015. Afin de se racheter, l'Oblat offre depuis lundi une carte cadeau de 25 $ à tous les clients admissibles. Autrement dit, l'Oblat fait d'une pierre deux coups. Ils effacent leur erreur tout en faisant un coup marketing, mentionne M. Nantel. Et vous savez quoi? Je pense que ça va marcher. Je suis convaincue qu'ils vont réussir à noyer le poisson. L'avocat responsable du recours collectif intenté dans cette affaire, Joey Zuckerman, partage le même avis. L'Oblat dit « Donnez-nous votre nom, votre date de naissance, votre courriel, votre adresse et venez dépenser 25 $ chez nous. » Ça montre un peu l'élément promotionnel et non pas légal de tout ça. C'est pour ça qu'on se questionne et qu'on trouve ça scandaleux, a-t-il expliqué en entrevue à l'émission de Mario Dumont. De prison, même si elle a dépouillé une aînée. Je n'ai pas de mots pour exprimer mon dégoût en entendant les faits, a lancé le juge Pierre Labelle hier avant de condamner Anita Obobzinski. Impassible devant le magistrat, l'accusée de 53 ans n'a pas dit un mot, se contentant d'écouter sa sentence après avoir plaidé coupable, entre autres, d'entrave à la justice, de faux et d'utilisation de faux, ainsi que de méfaits. Toute l'affaire a commencé en mars 2013 quand Obodzinski a fabriqué un faux document lui permettant d'être la mandataire d'une dame de 89 ans, Véronica Piella. Cette dernière était tout à fait lucide, mais avec des complices, dont un avocat et une travailleuse sociale, Obodzinski a fait déclarer sa victime inapte par la Cour supérieure du Québec, obtenant ainsi le contrôle quasi total sur elle. Rapidement, les 474 174 $ d'économie de la vieille dame ont été transférés dans un autre compte en banque. Et pour s'assurer d'isoler la dame, Obodzinski a obtenu un ordre de la cour afin de l'envoyer de force dans une résidence. En plaidant coupable, Obodzinski a réussi à éviter l'incarcération. Elle a plutôt écopé de 2 ans moins un jour à purger dans la collectivité, de 240 heures de travaux communautaires et de 3 ans de probation. Pour un premier hiver, la GRC peut transporter des criminels dans les contrées les plus éloignées du Manitoba grâce à 4 nouveaux fourgons cellulaires tirés par des motoneiges. Achetés au coût de 28 000 $, ces remorques offrent chaleur et confort aux personnes arrêtées dans des communautés uniquement accessibles par petits véhicules. La GRC les utilise aussi pour transporter de l'équipement lors d'enquêtes criminelles ou pour faire des sauvetages. L'eau potable de 300 000 personnes résidant entre Beauharnois et Longueuil est menacée par plus de 70 sites toxiques en toute connaissance de cause des autorités, dénoncent des organismes. C'est ce que révèle un rapport réalisé par la SCABRIC, un organisme voué à l'amélioration et à la conservation de la qualité de l'eau et des sols du bassin versant de la rivière Châteauguay. Le document recense 26 terrains dont l'eau souterraine est contaminée, 17 sites d'entreposage et de traitement de matières dangereuses, un incinérateur de déchets dangereux et 23 lieux d'entreposage des neiges usées. À ce décompte s'ajoutent 8 sites contaminés sur les territoires autochtones de Kanawake. L'État craint de pousser les pollueurs à la faillite en exigeant qu'ils décontaminent leurs terrains ou en leur imposant des amendes trop sévères, estime l'éco-toxicologue Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution. La mairesse de Mercier, Lise Michaud, confirme. Elle s'inquiète particulièrement des sablières en fin d'exploitation sur son territoire qui se convertiraient, dit-elle, en dépotoirs clandestins. « Au moins 13 personnes ont été tuées dans des coulées de boue qui ont emporté des maisons et coupé un important axe routier dans le sud de la Californie qui subit les assauts d'une forte tempête, ont rapporté plusieurs médias hier. Les pompiers du comté de Santa Barbara ont indiqué que les corps avaient été retrouvés dans la boue et des débris lors d'une opération de secours à Montecito, au nord-ouest de Los Angeles. Sur Twitter, les pompiers ont déclaré qu'ils utilisaient des chiens pour chercher de possibles victimes à un endroit où se trouvaient plusieurs maisons, avant que de fortes pluies ne s'abattent et provoquent des glissements de terrain.
Oiseau semeur au pays des fleurs de la transe. Les oiseaux semeurs, qu'en est-il de la chance? Les oiseaux semeurs par le coup de la lance. Les oiseaux semeurs, qu'en est-il de la chance? Qu'en est-il de la chance? Des jours ensoleillés, des amours de vacances pour les cœurs abîmés, qu'en est-il de la chance? L'aurait-on oublié quelque part par méfiance, par mauvaise volonté?
Pierre Lapointe, qu'en est-il de la chance?
Dans le soleil, Jean-François Néron pour amorcer cette tournée des journaux régionaux, un palais multimédia pour Bonhomme. Le traditionnel palais de Bonhomme ne sera pas habité que par le sympathique géant blanc. Son, lumière et projections vidéo animeront la visite des carnavaleux. Notre mandat était de créer un parcours nocturne immersif et interactif, raconte Éric Lagotte, directeur technique chez Blackout Design. L'entreprise de Québec compte déjà de nombreuses réalisations ici comme à l'étranger. L'animation visuelle du Red Bull Crushed Ice, de l'Igloo Fest et même le championnat international de parachutisme de Dubaï, c'est Blackout. Il y a 3 zones interactives sur fond de thématique hivernale. On se garde quelques secrets, mais je peux dire qu'il y aura des projections visuelles accompagnées d'une ambiance sonore et de laser notamment, confie M. Lagotte. L'entreprise a beau compter plusieurs années d'expérience, il reste que réaliser ce projet sur une si longue période dans un endroit restreint comme le Palais de Bonhomme comporte plusieurs défis. Il y a évidemment le froid et les intempéries, il faut protéger l'équipement adéquatement. Nous utilisons aussi des lumières d'ailes pour éviter de dégager une chaleur qui ferait fondre la glace. Surtout, nous devons nous assurer que l'expérience dans une zone n'interfère pas dans la zone voisine parce qu'il y a un effet de transparence avec la glace. Nous avons fait quelques tests sur des blocs semblables dans des entrepôts réfrigérés. Cependant, ce n'est qu'une fois l'équipement installé que nous pourrons juger de l'effet anticipé, explique le directeur. Le palais devrait être livré le 18 janvier, ce qui donne quelques jours pour ajuster le tir d'ici la soirée d'ouverture du carnaval le vendredi 26 janvier. On a 6 nuits de programmation avec 8 programmeurs. Nous sommes confiants d'y arriver. La chronique de Denis Graton, Briser l'isolement. Des rencontres de soutien pour les proches de personnes atteintes du syndrome Gilles de la Tourette débuteront demain, jeudi, à Gatineau. Enfin, diront les personnes concernées, puisque le groupe de soutien le plus près de l'Outaouais se trouve à Sainte-Thérèse-de-Blainville, à une trentaine de kilomètres au nord de Montréal. Mais deux bénévoles de la région, Marie-Josée Bernier et Daniel Gagnon, ont récemment accepté de prendre en main le tout premier groupe de soutien de Gatineau. Madame Bernier et M. Gagnon s'y connaissent, leur fils de 15 ans, Zachary, est atteint du syndrome de la Tourette. Ils savent comment une famille touchée peut être isolée et comprise. Juste de savoir qu'on n'est pas seul à vivre pareil, angoisse et rassurant, de dire Madame Bernier. Zachary a été diagnostiqué à l'âge de 10 ans. Et selon sa mère, le jeune adolescent a pratiquement tous les symptômes associés à ce trouble neurologique qu'est le syndrome de la Tourette. Tous les gens qui ont la Tourette ont des tics, explique-t-elle, des tics moteurs et des tics sonores. Et à ces tics se greffent des symptômes associés. Mon fils les a tous, sauf les problèmes d'apprentissage. On parle d'hyperactivité, d'impulsivité, de troubles d'adaptation sociale, de troubles d'organisation et de planification. Il a tout ça. Et c'est très difficile pour lui de poursuivre sa mère. À l'école, Zachary a des jeunes de son âge avec lesquels il se tient. Mais si on parle d'amis qui vont se voir les fins de semaine ou qui vont aller jouer dehors et tout ça, c'est non. Zachary n'en a pas. C'est donc difficile pour lui et difficile pour nous, ses parents. Quand ton enfant vit échec après échec, qu'il n'a pas d'amis et qu'en plus, il souffre physiquement à cause des tics, ça devient décourageant. Le syndrome de Gilles de la Tourette est effectivement mal connu et souvent incompris au sein de la population. Comme il s'agit d'un trouble neurologique, les symptômes de la personne atteinte ne dépendent pas de sa volonté. On leur attribue souvent à tort de la mauvaise volonté ou un malin plaisir à provoquer ou déranger l'entourage. La personne vit alors de l'isolement et de l'incompréhension. C'est très difficile parce que ce n'est pas sexy de laisser tomber, Marie-Josée Bernier. La Tourette, c'est parfois dérangeant et malaisant. On ne veut pas regarder la personne atteinte parce qu'on ne veut pas la fixer. Mais en même temps, ça attire notre attention. Et si on tente de l'ignorer alors que c'est évident qu'on s'en rend compte, on est mal à l'aise. Et les gens atteints de la Tourette le savent, donc eux aussi sont mal à l'aise. Ils savent qu'ils dérangent et ça les dérange autant. Mais ils n'ont pas le contrôle, donc ils s'isolent. Madame Bernier communiquait régulièrement avec l'Association québécoise du syndrome de la Tourette, AQST, pour obtenir des conseils. Et elle soulignait souvent le fait qu'il n'y avait pas de service à Gatineau pour les familles des personnes atteintes. Un jour, de dire Madame Bernier, une dame du conseil d'administration de la QST m'a demandé si je voulais devenir bénévole. Je me suis dit que ce serait peut-être le bon moment. Je suis en arrêt de travail de mon poste de fonctionnaire depuis un peu plus d'un an. Et je pense que je peux contribuer tout en allant chercher de l'appui et rencontrer d'autres familles de la région qui vivent les mêmes situations et les mêmes défis que nous. Et j'espère que les gens qui se sentent concernés se sentiront à l'aise de venir aux rencontres de soutien. On a toujours besoin d'échanger. On ne peut pas rester isolé. Les rencontres du groupe de soutien de la QST de Gatineau, animées par Marie-Josée Bernier et Daniel Gagnon, débutent le jeudi 11 janvier, demain, de 19h à 21h, et auront lieu tous les deuxièmes jeudis du mois de janvier à juin. Elles se tiendront dans les locaux de Cap Santé Outaouais, au 92 boulevard Saint-Raymond, secteur Hall. Pour de plus amples renseignements, 819-771-2277, 819-771-2277. Dans le quotidien, au millénaire, un pavillon de 1,3 million. Les coûts d'implantation du pavillon au millénaire à la baie sont plus élevés que ce qui a été révélé dans l'édition de mardi du quotidien. Un montant de 400 000 $ relatif à l'utilisation de ressources humaines n'était pas inclus dans les chiffres fournis par la Commission scolaire des Rives du Saguenay en vertu de la loi sur l'accès à l'information. La direction de la commission scolaire confirme donc que la conversion de l'ancienne école Georges Vanier pour en faire un pavillon ultra-moderne à vocation trilingue n'a pas coûté 900 000, mais bien 1,3 million. La porte-parole de la CS, commission scolaire, Claudie Fortin, n'a pu expliquer pourquoi cette somme a été omise du tableau acheminé au journal au cours des derniers jours. Elle ajoute que d'autres coûts sont à prévoir d'ici à la fin de l'année pour clore le déploiement de ce projet controversé, mis de l'avant par la directrice générale Chantal Cyr. L'éclairage extérieur reste à installer, ce qui nécessitera un investissement de 15 000 $. De surcroît, une analyse sonore a révélé que les plafonds doivent être insonorisés au coût de 20 000 $. Le remplacement des chaudières du bâtiment est aussi à prévoir, mais la commission scolaire a obtenu une subvention ministérielle de 600 000 $ pour la réalisation des travaux. Il faut rappeler que lors de l'annonce au début de 2017, Chantal Cyr a soutenu qu'au millénaire, un projet particulièrement audacieux assorti d'équipements à la fine pointe de la technologie, se réaliserait pratiquement à coût nul. Quelques mois plus tard, elle parlait d'un montant de 400 000. L'enveloppe a vite grimpé à 456 000 et des imprévus de 87 000 ont été rencontrés en cours de chantier. À cela s'ajoutent les 325 000 nécessaires à l'achat de matériel informatique et éducatif. Chantal Cyr est en congé de maladie depuis le mois de novembre. Le ministère de l'Éducation du Québec enquête actuellement sur la gouvernance à la CS des Rives du Saguenay. Une étude portant sur le climat organisationnel a aussi été commandée. Concernant l'embauche des enseignants titulaires des classes de maternelle à la sixième année au dos millénaire, la direction confirme que seulement 3 des 7 profs recrutés étaient déjà des employés réguliers de la commission scolaire des Rives du Saguenay. 4 enseignantes surnuméraires ont donc obtenu un poste à temps plein, sur recommandation du service des ressources humaines. Au 1er décembre 2017, la CS, commission scolaire, comptait 312 enseignants occupant un poste régulier temps plein au niveau préscolaire et primaire. Lors d'une entrevue accordée au quotidien en juin, la porte-parole Hélène Aubin précisait que les candidats devaient démontrer qu'ils sont en mesure de s'exprimer en anglais avec aisance, qu'ils ont la capacité de soutenir une conversation et qu'ils peuvent formuler un message clair. Ils devaient aussi prouver qu'ils possèdent un vocabulaire varié, qu'ils ont une bonne compréhension et qu'ils affichent une certaine confiance à l'égard de la langue. Dans la tribune, sous la plume de Mélanie Noël, Georges acquiert Bertrand. La boulangerie Georges fait l'acquisition de la boulangerie Bertrand, entreprise familiale de Stoke, fondée en 1980 par Bertrand Trépanier et Pierrette Pomerleau. La transaction s'est conclue le 1er janvier. Les copropriétaires de la boulangerie Georges, Denis et Luc Fortier, se sont déclarés satisfaits des résultats de cette négociation et heureux d'accueillir dans leur équipe Marc Trépanier et Stéphane Marois. Pour les entreprises qui œuvrent dans notre domaine, recruter des ressources spécialisées en boulangerie représente un énorme défi. L'arrivée de Marc et Stéphane comme membres de la direction assure non seulement la pérennité de l'entreprise, mais également le maintien à long terme de la tradition qui a caractérisé notre entreprise depuis toujours, produire le meilleur pain qui soit, a déclaré Luc Fortier, ajoutant que M. Trépanier et M. Marois deviennent actionnaires de la boulangerie Georges, tout comme Simon Fortin, le fils de Luc. Le trio de nouveaux actionnaires représente la relève de l'entreprise, dont le territoire couvre Sherbrooke dans un rayon de 40 km. Le responsable du développement des affaires de la boulangerie Georges, Denis Fortier, a expliqué que cette acquisition était indispensable à la croissance de l'entreprise, dans laquelle, d'ailleurs, plusieurs investissements ont été réalisés au cours des 40 dernières années. Notre philosophie est d'investir constamment dans nos ressources humaines, dans nos équipements ainsi que dans nos infrastructures, a-t-il tenu à dire, précisant que l'entreprise a enregistré une croissance de 5 % au cours des dernières années. Aucune autre acquisition n'est prévue à court ou moyen terme. Et dans le Nouvelliste, l'ambulancier François Martel a pris le chemin de la prison mardi après avoir plaidé coupable à une accusation d'agression sexuelle sur une jeune fille âgée de 13 ans au moment des faits. Le juge David Bouchard l'a condamné à 24 mois, moins un jour, au palais de justice de La Tuque. L'accusé de 38 ans aurait développé une relation amoureuse avec la victime, qui était aussi la gardienne d'enfants. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. Je vous invite à rester avec nous dans un petit moment de la musique, aussi la portion culturelle ainsi que sujet libre.
Se déshabiller, passer sa vie et s'essayer d'enlever les habits que nous mettent nos amis les humains, même ceux qui nous aiment, même ceux qui nous aiment. Passer sa vie à se démaquiller, à couche après couche, tout faire craquer, à s'espionner, le souci, la cassette, à se chasser dans chaque cachette. Passer de passeur de côté, passer de semi, de mini, sommeur d'amour entier, qui s'aime soi-même et qui t'aime doué. Passer d'assis à debout dressé, passer de soumis à libéré, de poigné ici à libre et fou partout, affamé de vie, affamé d'envoler. La peau à l'air, l'amour aussi,
plus récent extrait de Daniel Boucher qui s'intitule « À grands coups de coude » d'un album à paraître prochainement.
Les employés du quotidien montréalais gratuit Métro ont été avisés par voie de courriel qu'un des acheteurs potentiels sérieux du quotidien mis en vente par son propriétaire transcontinental s'est retiré de la course il y a quelques jours. Métro, comme tous les journaux du Québec et de l'Ontario de Transcontinental et de sa filiale TC Media, est en vente depuis avril 2017. La transaction reportée à plusieurs reprises est maintenant terminée, a expliqué le directeur général de Métro, Yves Bédard, dans un mot, aux employés précisant que cet acheteur potentiel qui a signé une entente de confidentialité ne se porte pas acquéreur du journal ainsi que des hebdos de l'île de Montréal. En novembre, alors que le quotidien abolissait 5 postes, la directrice des communications de Transcontinental affirmait que Métro génère de l'intérêt dans le marché. Contactée par Le Devoir mardi, Mme Chartrand a répété cette même phrase. Le journal Métro de Montréal est toujours dans le processus de vente de nos journaux locaux et régionaux au Québec et en Ontario, a-t-elle affirmé, se refusant à faire davantage de commentaires. Métro a par ailleurs perdu sa rédactrice en chef Rachel McDuff il y a 10 jours. Elle deviendra l'adjointe du directeur de l'info à l'actualité au journal de Montréal. Madame McDuff, qui a travaillé longtemps à Métro, avait été nommée directrice en chef en mars, remplaçant Yannick Pinel, qui avait quitté le journal pour Radio-Canada. La directrice des communications de Transcontinental, Catherine Chartrand, a affirmé au Devoir que c'est le directeur général de Métro, Yves Bédard, qui assume présentement le rôle de rédacteur en chef par intérim et assume la responsabilité de la salle de rédaction. Le journal Métro compte en moyenne 1 260 000 lecteurs de ses versions imprimées et numériques, selon le dernier sondage Vividata. Une source à Métro avait récemment expliqué au Devoir que plusieurs s'inquiétaient de la capacité de la publication à continuer de faire le travail nécessaire avec les ressources restantes. L'ambiance est très difficile ici en ce moment. Au dire de personnes proches du quotidien, au moins trois employés seraient à la recherche d'un autre emploi. C'est un article publié dans Le Devoir d'aujourd'hui sous la plume de Philippe Papineau. Angèle Dubois, une musicienne pour tous, la virtuose reçoit le prix Rideau Hommage. Lorsqu'elle a eu son premier violon, à l'âge de 4 ans, Angèle Dubois s'est empressée de lui donner le lit de sa poupée. Elle le bordait ensuite tous les soirs en lui souhaitant bonne nuit. Depuis, la virtuose Angèle Dubois n'a jamais cessé de jouer du violon, sauf lors du douloureux traitement subi pour un cancer du sein il y a quelques années. Lorsqu'elle l'a repris ensuite, le violon pleurait et elle pleurait avec lui, raconte-t-elle. Mardi, Angèle Dubois recevait le prix Rideau Hommage, remis par le réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques. Ce prix souligne notamment l'apport de la violoniste à la démocratisation de la musique classique. « J'ai depuis toujours cette volonté de démystifier la musique classique », dit la musicienne en entrevue. « J'ai toujours dit et pensé que la musique est le bien de tout le monde ». Angèle Dubois a donc toujours voulu toucher le plus de gens possible avec sa musique, et elle y est arrivée. Mais en cours de route, certains bonzes de la musique classique ont ridiculisé ce cheminement. « Il y a beaucoup de gens de la musique classique qui ne comprenaient pas ce que je faisais et qui venaient ridiculiser ce cheminement de vouloir essayer de rejoindre tout le monde », se souvient-elle. Que ce soit à travers le monde ou à travers le Québec, Angèle Dubois a passé une bonne partie de sa vie dans ses bagages. C'est ce qui l'a amenée d'ailleurs à annoncer sa dernière tournée intitulée « Pour une dernière fois » en 2017. « Je pose mes bagages, mais je ne pose pas mon violon », dit-elle. C'est ce qu'on peut lire, entre autres, dans l'article signé Caroline Montpetit dans Le Devoir. Eh oui, c'était Angèle Dubois et La Pietà. Merci Jean-Sébastien. Denis Villeneuve en lice au BAFTA. Denis Villeneuve fait belle figure parmi les finalistes au prochain gala de la British Academy of Film and Television Arts, BAFTA, l'équivalent britannique des Oscars. Le cinéaste québécois est en lice dans la catégorie de la meilleure réalisation pour son film Blade Runner 2049, paru cet automne. Au total, le long-métrage obtient 8 nominations, notamment dans les catégories de la musique originale, de la direction photo, du montage, des décors, des maquillages et coiffures, du son et des effets visuels. Le film The Shape of Water, La forme de l'eau, partira favori au gala. Le thriller fantastique de Guillermo del Toro, qui a été tourné à Toronto et à Hamilton, a obtenu des nominations dans 12 catégories mardi, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. La tragicomédie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri, et le film biographique sur Winston Churchill, L'heure la plus sombre ou The Darkest Hour, ont chacun reçu 9 nominations. Le drame de la Seconde Guerre mondiale, Dunkerque, est nommé 8 fois et I, Tonya, moi, Tonya, 5 fois. Et les gagnants des prix britanniques seront annoncés le 18 février, 2 semaines avant les Oscars. Et je vous lis les débuts de la chronique d'Hugo Dumas, quelques paragraphes. Concernant Véro et sa nouvelle émission, Véro gagne le gros lot, c'est le titre qui veut tout dire. Verdict rapide à propos des premières fois, puisque c'est le titre de l'émission, première fois de Véronique Cloutier, dont j'ai visionné le premier épisode hier matin à Radio-Canada. C'est vraiment très bon. Aucun temps mort dans cette heure de télé compacte, divertissante et émouvante qui met en vedette Pierre-Yves Laure et Hélène Bourgeois-Leclerc. Les deux invités de Véro y sont attachants, drôles et touchants. On voudrait les avoir comme meilleurs amis, sans blague. Leur humilité, leur autodérision et surtout leur vulnérabilité nous happent de plein fouet. Véronique Cloutier peut pousser un gros soupir de soulagement. Contrairement à celui de votre beau programme très brouillon, le concept de « première fois » au pluriel s'avère efficace et offre aux téléspectateurs le même type de bonheur qu'en direct de l'univers, je dirais. Les fans de Véronique Cloutier retrouveront le jeudi 18 janvier à 20h l'animatrice chaleureuse qu'ils aiment, vite sur ses patins et dotée d'une capacité épatante à rendre ses convives à l'aise.
J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivé par erreur, maladresse de facteur, aspergé de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste, une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche quand
je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
En direct de Paris, c'était Renan Luce avec son premier succès, La Lettre, de son album de 2007, Repenti.
Section Sujet libre, c'est une chronique de Nathalie Petrovski que j'ai choisi de lire pour vous. Catherine dans le métro, entre parenthèses ou dans le champ. Une question comme ça. À quand remonte la dernière fois où on a vu Catherine Deneuve dans le métro, dans la vraie vie, s'entend, pas au cinéma, dans un vrai wagon, à l'heure de pointe, un wagon bondé et puant, où la proximité forcée finit toujours par libérer de sinistres mains baladeuses et des frottements rarement désirés. À quand? Ça doit faire au moins 100 ans que la star de cinéma et ex-égérie de Chanel n'a pas pris le métro, si tant est qu'elle y ait déjà mis les pieds. Je pose la question parce que la grande Catherine, aujourd'hui âgée de 74 ans, est une des 100 signataires d'une lettre qui, dans le journal Le Monde, se porte à la défense des hommes et de leur droit d'importuner les femmes, aussi bien au bureau que dans le métro. Une femme peut veiller à ce que son salaire soit égal à celui d'un homme, mais ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit, affirme Catherine et ses 99 co-signataires issus pour la plupart des milieux culturels et littéraires parisiens. Je repose ma question. À quand remonte la dernière fois où Catherine Deneuve ou Catherine Millet, qui a rédigé une bonne partie de la lettre, ou Catherine Robe-Grillet ou Elisabeth Lévy, toutes des stars à leur façon dans leurs milieux respectifs, ont pris le métro et eu affaire à un frotteur? Jamais, évidemment. Si cela avait été le cas, elle n'aurait jamais laissé passer une phrase aussi malheureuse. Il faut être mal luné ou carrément de mauvaise foi pour défendre la liberté d'importuner pour les frotteurs dans le métro, une des pires races de l'humanité. Pour le reste, la réflexion de ces Françaises, dont l'âge moyen se situe au-dessus de 60 ans, ne manque pas de pertinence, même si on ne peut s'empêcher d'y voir un élan aussi bien générationnel que profondément ancré dans la culture française. Une culture où le droit de cuissage fut longtemps un droit acquis. Mais ces femmes ont raison de craindre une vague purificatoire qui enferme leurs semblables dans un rôle de proie et d'éternelles victimes, incapables de se défendre et nécessitant d'être constamment protégées. La confession publique, l'incursion des procureurs autoproclamés dans la sphère privée, voilà qui installe comme un climat de société totalitaire, écrivent-elles, se positionnant à des années-lumière des actrices qui ont défilé au micro des Golden Globes avec leurs robes noires et leurs poings levés au nom du mouvement Time's Up, célébrant la prise de parole des victimes de prédateurs. Contrairement aux Américaines, les Françaises cherchent plus à protéger les hommes qu'à les blâmer. Tout cela au nom de la liberté sexuelle et de la crainte d'un retour du puritanisme, crainte qui me fait bien rigoler dans la mesure où la France est sans doute le dernier pays où le puritanisme risque de fleurir. Malsaine scission. Quand Catherine et ses amis s'opposent à la rectitude politique qui revient à plein régime ou à la censure d'œuvres d'art, je partage leur point de vue. Pour le reste, c'est bien plus la lettre de Daphne Merkin dans le New York Times qui traduit le mieux mon malaise. L'auteur et essayiste évoque la très malsaine scission qui s'est installée entre le discours public et le discours privé. En public, nous sommes toutes pour le mouvement hashtag ou mot-clic, moi aussi, écrit-elle en substance. Nous l'écrivons, nous le tweetons, nous le partageons. Mais en privé, poursuit-elle, Combien de féministes lèvent les yeux au ciel, parfaitement exaspérées par l'indignation sans nuance qui accompagne la cause, transformant un moment de prise de conscience en un festival d'accusations sans preuve. Le fait que ces deux discours cohabitent n'est pas un bon signe, croit-elle. Cela suggère une forme d'intimidation sociale sous laquelle se cache la culture de la rectitude politique, selon elle. Évidemment, il n'est nullement question de défendre les Kevin Spacey, les Matt Lauer ou les Harvey Weinstein de ce monde, mais de s'insurger contre la pensée unique qui régit le mouvement « Mot-clic, moi aussi » et interdit toute nuance. Il s'agit aussi de remettre en question l'absence troublante de clarté et de distinction dans les expressions véhiculées qui mettent sur un pied d'égalité aussi bien le viol et l'inconduite sexuelle que le frôlement ou le flirt maladroit. Comme les Françaises, l'Américaine déplore le retour à un paradigme victimaire où les femmes sont perçues et se perçoivent comme de fragiles poupées de porcelaine de l'ère victorienne. C'est ce qui me chicote moi aussi. La victimisation et le fait qu'on n'évoque jamais assez le droit des femmes de repousser, de dire non, bas les pattes, va te faire voir ailleurs. En somme, le droit de se défendre et de se tenir debout face à ceux qui abusent de leur pouvoir. On a beaucoup célébré le courage des femmes qui ont dénoncé les harceleurs et les prédateurs. On pourrait maintenant célébrer celles qui leur ont tenu tête et qui en ont parfois payé le prix et parfois pas. Si des résidus de sexisme et de machisme survivent au ras de marée de ce formidable mouvement, ce sera l'exemple de ces femmes-là qu'il faudra suivre. Les frotteurs dans le métro n'ont qu'à bien se tenir. Libre opinion dans le devoir d'aujourd'hui, un vœu de santé pour 2018, c'est signé Dr Gilles Julien, pédiatre social. La santé est un bien précieux qu'on se souhaite le plus longtemps possible. La santé, c'est aussi un droit fondamental qui doit être accessible à tous en tout temps. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais surtout un état de bien-être et de bonheur durable. Tous y aspirent sans exception. La santé est d'abord une responsabilité personnelle, même s'il est aussi social pour ceux qui vivent en société. L'individu doit jouer un rôle de premier plan dans le développement et le maintien de sa santé. Il doit être bien informé et posséder les outils nécessaires pour agir en conséquence. La société, elle, doit mettre en place un ensemble de structures et rendre accessibles des moyens utiles pour soutenir l'individu afin qu'il sauvegarde sa santé. Le rôle de l'État est donc fondamental, mais partagé dans une perspective d'équité et de justice sociale. Dans l'état actuel des choses, le système de santé et des services sociaux du Québec est en sérieuse crise et on ne voit pas d'amélioration en vue. Pourtant, des pays comme le Royaume-Uni, l'Australie et les Pays-Bas y arrivent. Comme pour omnubiler le problème, on n'en finit plus d'accuser les médecins d'être responsables de tous les maux qui affligent ce gros système et on semble se refuser à réfléchir aux véritables raisons de cet échec. Il est facile et réducteur d'accuser les médecins bien payés, certes, mais également victimes plus ou moins consentantes. L'État-providence, au trop plein pouvoir, les coûts faramineux incontrôlables, la bureaucratie monstre, les coûts exorbitants des médicaments, leur surconsommation, l'absence de mesures préventives, l'environnement toxique en sont des exemples clairs, et j'en passe. On ne parle pas de ces vrais enjeux qui minent notre système de santé. Dans l'état actuel des choses, il y a les gens privilégiés et les autres. Pour les uns, le coût n'a pas d'importance. Ils ont leur médecine à deux vitesses pour être soignés vite et bien. Ils ont accès à toute l'information nécessaire pour prendre en charge leur santé, même s'ils ne s'en préoccupent pas toujours beaucoup. Pour contrer les stress toxiques, ils peuvent profiter de vacances prolongées loin de l'hiver et des temps sombres. Ils peuvent aussi se rabattre sur des biens et des aliments luxueux pour se conforter dans les moments plus difficiles. Et j'en passe. Pour les autres, il leur faut attendre des lunes pour dénicher un médecin consentant à leur parler 10 minutes. Ils peuvent d'ailleurs rarement lui poser des questions et surtout pas se faire rassurer, même s'ils souffrent d'un cancer ou d'une maladie complexe. On leur prescrit beaucoup de médicaments pour les calmer ou pour leur rendre la vie plus acceptable. Ils ne peuvent que rarement sortir de leur quartier appauvri pour se changer les idées et les vacances. Ils ne connaissent pas. Sans soutien et sans répit, les moyens leur manquent pour assurer leur santé et leur bien-être. L'équité n'est certes pas au rendez-vous en santé au Québec. Je suis médecin et il se trouve que j'ai des amis privilégiés et des amis qui le sont beaucoup moins. Je suis donc à la fois mal placée et bien placée pour émettre une opinion personnelle. Ce qui est clair, c'est que je crois encore en une certaine équité et en une justice sociale dans le domaine de la santé, et c'est mon souhait en ce début d'année 2018. Loin de moi l'idée d'enlever des privilèges à ceux qui en ont déjà. Ce serait subversif et pas très amical de ma part. J'estime trop mes amis pour me lancer dans cette aventure. Par contre, je sais pertinemment que plusieurs d'entre eux veulent changer réellement la donne et qu'ils pourraient « contaminer » entre guillemets plusieurs de leurs amis pour enfin aborder les vraies choses en santé afin de rendre les soins plus équitables. On peut penser que nos amis privilégiés s'impliquent dans un changement majeur en tant que société civile, en santé et aussi en éducation. Des précédents existent ailleurs dans le monde. Qu'ils fassent entendre leur voix pour le bien public comme lobbyistes ou comme force commune, qu'ils travaillent à changer notre société en la rendant plus inclusive et même qu'ils contribuent personnellement à se rapprocher des autres de différentes façons pour non seulement influencer la santé de chaque individu, mais aussi celle de la société tout entière. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Voilà mon souhait et mon rêve pour 2018. Opinion du Dr Gilles Julien, pédiatre social. Un vœu de santé pour 2018. C'est tout pour le quotidien des quotidiens de cette journée du 10 janvier 2018. Ici Hélène Denis qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Je vous retrouve à l'émission Les Paractualités dans 3 minutes ou sinon ailleurs. Sur le site Internet de Canal M de Vues et Voix, vous pouvez entendre l'émission Le quotidien des quotidiens ainsi que Les Paractualités quand vous voulez. À bientôt!